Eh bien, merci à toute l'équipe d'Accent d'Europe. Ce soir, nous évoquons les ambitions d'Israël dans le débat du jour.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
Israël qui poursuit son offensive en Iran, sixième jour de guerre. Ce mercredi, entre les deux pays et de nouveaux gains annoncés par l'État hébreu qui affirme avoir détruit le quartier général de la sécurité intérieure iranienne à Téhéran. Israël qui ne cesse d'accentuer la pression depuis la fin de semaine dernière dans cette confrontation directe qu'il attendait tant et après s'en être pris aux alliés de l'Iran. En début de semaine, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a appelé le peuple iranien à se lever contre, je cite, la tyrannie au pouvoir. Notre question ce soir, est-ce qu'Israël redessine le Proche-Orient actuellement? Que veut l'État hébreu? Qu'y aura-t-il après les guerres? Soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos deux invités à mes côtés en studio, David Rigoulet-Rose, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique, spécialiste du Moyen-Orient, chercheur rattaché à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Votre ouvrage, l'Iran en crise systémique, 4 décennies de tourments. Face à vous, Rina Bassiste, bonsoir.
Bonsoir.
Correspondante de la radio israélienne à Paris et rédactrice au journal Al Monitor. Merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Ça fait donc 6 jours qu'Israël a déclenché cette guerre avec l'Iran. C'est l'opération Le Lion qui se lève, c'est le nom de l'opération. Alors, pour savoir si Israël redessine le Proche-Orient, c'est la question qu'on pose ce soir. D'abord, il faut essayer de comprendre quelles sont les intentions de l'État hébreu en Iran, David Rigoulet-Rose. Les lieux de pouvoir sont de plus en plus touchés ces derniers jours. Quel est l'objectif d'Israël en Iran ?
Ah bah, l'objectif premier, c'est de neutraliser la menace nucléaire que représentait la République islamique d'Iran. Je précise la République islamique parce que justement, ce n'est pas forcément les Iraniens. C'est pas forcément facile aussi pour les Iraniens de se sentir justement embarqués dans une responsabilité qu'ils estiment ne pas être la leur. Mais incontestablement, le régime iranien, effectivement, avait un programme qui reconstituait une menace jugée existentielle et qui a justifié le lancement de cette opération après, en fait, des années. Ça fait 20 ans que, de toute façon, le problème est posé. Il s'est accéléré, la perception de cette menace s'est accrue ces derniers mois parce qu'il y a eu un certain nombre d'éléments, notamment établis par l'Agence internationale de l'énergie atomique qui a calculé effectivement que l'Iran disposait d'un stock inédit à 60%, donc un enrichissement d'uranium enrichi qui permet de passer assez rapidement à 90%. Donc il y avait une logique d'urgence.
90%, c'est l'arme atomique.
C'est le degré d'enrichissement nécessaire pour concevoir une bombe, même si elle n'était pas encore conçue, évidemment. Mais c'est le problème, en fait, c'était on était dans une logique de temporalité d'urgence. Donc il y a une multiplicité de temporalités. C'est pour ça que c'est une question souvent très compliquée à aborder, cette question, parce que ça fait des années que effectivement Israël dit qu'il y a une menace, et aujourd'hui on dit alors pourquoi maintenant, pourquoi pas avant, etc. Ouais. Mais en réalité, effectivement, c'est un problème de fond. D'ailleurs, c'est ce qui avait justifié la signature en 2015 du fameux accord sur le nucléaire, précisément, pour essayer de contrôler, de maîtriser la menace potentielle.
Ouais. Mais alors, stopper ce programme nucléaire iranien, c'est la raison, je dirais, de cette offensive lancée par Israël en Iran. Est-ce que c'est l'objectif israélien en Iran ?
En tout cas, c'est l'objectif stratégique. Après, l'objectif opérationnel, la question, elle est que à partir du moment où l'opération militaire est lancée, dans ses modalités inédites, il y a la question qui se pose d'une logique de changement de régime qui semble s'imposer dans la logique des événements. Mais qui n'était pas forcément préexistante, en tout cas pas du point de vue de l'administration américaine, certainement pas, parce qu'il y avait eu préalablement le souhait de négocier, de parvenir à un accord en faisant l'économie de l'option militaire. Peut-être de la part du Premier ministre. Alors, il y a des doutes qui renvoient à ces déclarations récentes appelant la population à se révolter, etc. Ouais. Mais la question, de toute façon, le problème de ce type d'opération, c'est que parfois, une logique s'impose. Il y a une logique des événements qui s'impose. Ouais. Et là, en l'occurrence, c'est ce qui semble se dessiner avec beaucoup, évidemment, d'interrogations pour la suite.
Le changement de régime, c'était pas évoqué lors du lancement, pour vous, de l'offensive israélienne le week-end dernier contre l'Iran. Ah, c'était pas affiché.
C'était pas, en tout cas, non, un objectif déclaré.
L'objectif c'est devenu un objectif, ou en tout cas, c'est une conséquence.
C'est une conséquence possible.
Rina Bassiste, on essaie de se projeter ce soir, puisqu'on pose la question de est-ce que Israël est en train de redessiner le Proche-Orient. Donc, si on se projette, Est-ce que si quelles conséquences si ce régime change, si le régime des Mollahs tombe?
Bon, d'abord, je dois dire que moi, je pense qu'au début, en tout cas, ce n'était pas un objectif.
Oui.
Parce que d'abord, ça semble infaisable que vraiment une opération militaire peut amener que le régime iranien tombe. Mmh. Et aussi, je crois que même en Israël, on se dit qu'à la fin, c'est vraiment le peuple iranien qui doit décider de son sort. Ce n'est pas à Israël de régler ce problème dictatorial, même si, bien sûr, en Israël, on souhaite...
Et là, on essaie de se mettre à la place d'Israël.
Voilà.
Je ne suis pas sûr que Benjamin Netanyahu pense cela.
Si, je pense que quand même. Et même
il pense que c'est à l'Iran de choisir... son successeur.
Les Iraniens.
Bien sûr, mais...
Oui, moi je pense qu'il y a cette réalisation en Israël, même si, bien sûr, ça arrangerait Israël énormément si le régime d'Ayatollah tombe. Maintenant, la question est, si Khamenei, par exemple, est visé, si le régime d'Ayatollah tombe, qu'est-ce qui va devenir après?
Ben c'est ça.
On n'a pas de garantie qu'il y aura vraiment une opposition iranienne qui va prendre sa place. Il ne faut pas oublier que Khamenei a déjà préparé depuis longtemps un successeur. Il y a son fils, il y a d'autres ayatollahs. Et il faut pas oublier non plus que les gardiens de la révolution, même s'ils sont très affaiblis, ils ne sont pas disparus pour l'instant.
Ouais.
Donc, même si on va voir Khamenei visé, tué, ou tout ce que vous voulez, ça ne veut dire pas, justement, qu'il y aura cette opposition qu'on a vue dans la rue ces dernières années prendre sa place. Donc, il y a aussi cette méfiance en Israël, je crois. Et même le gouvernement israélien est conscient de ça, et qu'il n'y a pas cet enchaînement d'événements est très incertain, d'une certaine façon.
Oui, finalement, le fait que la rue iranienne s'oppose au régime peut être vu positivement par Israël, et avoir une cohésion, finalement, entre le régime et l'opinion publique, ça peut être dangereux pour Israël. Mais que peut attendre, en fait, Israël d'un changement de régime si le régime des Mollahs tombe, encore une fois, à sa place, est-ce que Benjamin Netanyahu, il peut espérer un régime conciliant avec Israël? Qu'est-ce que ça changerait, en fait?
Et bien sûr, parce que je crois que beaucoup de gens en Israël, en tout cas des gens de ma génération et de la génération avant, on se souvient très bien de l'époque des Shah et les relations absolument extraordinaires qu'il y avait entre les deux peuples. Et moi, à l'époque, quand je faisais mes études d'architecture, j'avais plusieurs professeurs qui me racontaient encore les projets qu'ils ont conçu et construit à Téhéran.
Ouais.
Et c'est pas si lointain que ça.
C'est une réconciliation entre l'Iran et Israël.
Mais je crois que c'est pas exactement une question de réconciliation, parce qu'entre les deux peuples, il n'y a pas une guerre entre les deux peuples. C'est vraiment une guerre entre les deux régimes. En Israël, il y a pas mal de personnalités d'origine iranienne qui ont tendu la main, qui ont fait beaucoup de déclarations au moment où il y avait les grandes manifestations et à Téhéran dans ce sens. Et on a notre grande chanteur, la diva Rita, qui s'exprimait beaucoup à ces moments-là, affichant justement la solidarité des peuples israéliens avec l'opposition iranienne. Donc, bien sûr, il y a des espoirs en Israël qu'on peut peut-être revenir à cette époque dorée de bonnes relations entre les deux peuples, même si pas forcément avec un régime pareil d'un Shah, un régime peut-être plus démocratique quand même.
Vous y croyez, vous, David Rigoloreuse, ça servirait effectivement une pacification des relations entre les deux pays? Ça servirait Israël, puisque ça éloignerait la menace iranienne. Et ça voudrait dire quoi de l'hégémonie israélienne, puisque oui, là, on parle de l'hégémonie israélienne au Proche-Orient.
C'est pour ça que je prenais soin de dissocier la population du régime. Parce qu'en réalité, le régime de la République islamique qui s'est installé en 1979, dont l'ADN est anti-israélien, je veux dire, c'est à une dimension quasi... permanente, et dès l'origine, c'est une anomalie dans l'histoire longue entre les deux peuples. Effectivement, pendant très longtemps, d'abord, il y a une communauté juive très ancienne en Iran, et qui après est allée en Israël d'ailleurs. Il y a deux élus au Majlis qui représentent les Juifs. Dans l'histoire longue, il n'y avait pas d'hostilité en réalité. Et en remontant très très loin, il y avait même un crédit par rapport à la Perse de l'Antiquité, notamment de Cyrus, qui avait permis le retour des Hébreux en Canaan. Donc c'est vraiment la séquence très particulière, ouais, en fait, contemporaine, qui est une anomalie, pour des raisons, des tas de raisons géopolitiques, effectivement, qui ont conduit à cette situation. Mais la population iranienne en tant que telle est pas antisémite. Il n'y a pas d'antisémitisme, ouais, de la population.
Mais encore une fois, ces pays sont tenus par des dirigeants. Et là, en l'occurrence, est-ce que vous voyez le Premier ministre Benjamin Netanyahou belliqueux, comme il peut l'être aujourd'hui? Il a ouvert 7 fronts de guerre, il se targue de cela dans la région, on va évidemment en parler. Finalement, parvenir à un apaisement des relations avec l'Iran.
Le vrai problème, c'est la question nucléaire. C'est ça, en fait, qui est le point de fixation, qui hypothèque, oui, on va dire, une pacification régionale. Et je dirais même, pas seulement pour Israël, pour les autres pays. C'est-à-dire les pays arabes autour d'Israël, qui ont condamné l'opération, mais qui sont pas finalement mécontents que ça se fasse.
Et les monarchies du Golfe, par exemple.
Les monarchies du Golfe, notamment, ouais, qui étaient très très préoccupées par justement la nucléarisation potentielle de l'Iran, de la République islamique.
Et en même temps, qui sont pas amis de l'Iran, donc observe ça entre les deux.
C'est le moins qu'on puisse dire, voilà. Il y a une hostilité avérée, ancienne.
Mais la menace est plus importante que cette hostilité.
En tout cas, la menace représente, comme vous dites,
la menace nucléaire. Et donc l'affaiblissement de cette menace est plus important, en tout cas est plus d'augure à rassurer ces monarchies du Golfe que leur hostilité existe à l'égard de l'Iran.
Oui, mais ça va de pair. Je veux dire, c'est la perception d'une menace iranienne. Et c'était d'ailleurs un des dénominateurs communs entre les pays arabes de la péninsule et d'Israël dans la dynamique d'Abraham. C'était un des facteurs qui avait favorisé ce type de rapprochement parce qu'il y avait la perception d'une menace commune. Ouais. Même s'ils sont très prudents aujourd'hui pour des raisons aisément compréhensibles, parce qu'ils sont directement en face, évidemment, de l'Iran qui est susceptible de répliquer, y compris contre ces États qui, par ailleurs, reçoivent un certain nombre de bases américaines.
Vous avez évoqué les accords d'Abraham, donc c'est la normalisation d'Israël avec des pays arabes. Après la guerre menée en Iran, est-ce que ça va à nouveau intéresser Israël ou c'est plus le cas ?
Ça intéresse toujours Israël, mais il y a eu le 7 octobre, ouais, les conséquences de la guerre à Gaza qui ont fait que la normalisation, en réalité, c'est la normalisation qui est attendue, c'est celle avec l'Arabie Saoudite, c'est la pièce centrale, mais qui ne peut pas normaliser dans les conditions actuelles. Parce qu'il y a la problématique palestinienne. Alors, là, il se trouve que, de toute façon, on est dans la séquence guerrière. Donc, c'est le brouillard de la guerre. On n'a pas encore les conséquences. Il y a des attendus très, très incertains, a fortiori si le régime s'effondre. Donc, on ne peut pas présager de ce qui se passera, mais c'est un bouleversement absolument majeur.
Rina Bassiste, j'évoquais ces 7 fronts de guerre. Comment percevez-vous les ambitions de Benjamin Netanyahou au-delà de la guerre? Que veut-il?
Que veut-il? D'abord, je pense que David a tout à fait raison, parce que je pense que dans ses aspirations, c'est vraiment laisser derrière lui deux choses. Ouais. D'abord, bien sûr, c'est la question iranienne, neutraliser la menace nucléaire, parce que ça, c'était son objectif central. Depuis 30 ans, je veux dire. Il a carrément bâti sa carrière politique ou d'un homme d'État, si vous voulez, sur cette question. Et donc d'abord c'est là, mais deuxièmement c'est bien sûr c'est les accords d'Abraham et inclure l'Arabie Saoudite et dans cet accord. Maintenant c'est quasiment impossible tant qu'il y a la guerre à Gaza et tant qu'on n'a pas un cessez-le-feu, un accord pour les jours d'après la guerre. Donc il n'y aura pas l'élargissement des accords d'Abraham, ça
mais
c'est clair.
Mais la balle est dans le camp d'Israël pour aussi parvenir à un cessez-le-feu à Gaza.
Comment ça ?
La balle est aussi dans le camp d'Israël pour parvenir à cesser le feu à Gaza.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est aussi dans sa,
aussi,
son camp à lui, à
le
M.
Premier
Netanyahou.
Ministre peut lever le pied sur ces guerres menées sur ces fronts ouverts.
Non, mais je
crois
que...
Quand je parle de logique guerrière,
bien
depuis
sûr,
7
bien
octobre
sûr,
2023,
mais
il y a une logique
Netanyahou,
guerrière de la part du Premier
ministre
israélien.
Mais bien sûr, il faudra à un certain moment... Bien sûr.
Voilà, il y aura une deuxième phase.
Il ne peut pas avoir tout. Pour l'instant, il ne peut pas avoir tout. Il ne peut pas avoir la normalisation avec l'Arabie Saoudite dont il rêve depuis 2020 et en même temps continuer la guerre à Gaza. Je crois que ça, c'est très, très clair.
Et ça peut durer
donc
combien
là,
de temps?
C'est exactement ce que l'opposition en Israël dit, qu'il faudra arriver à un cessez-le-feu. Il faudra arriver à décider comment les jours d'après, comment ça va être dans la bande de Gaza. Et au moment où on arrive à un accord, là, justement, ça va ouvrir pour Israël des perspectives régionales absolument extraordinaires. Mais pour l'instant, on est extrêmement loin de ça parce que, M. Netanyahu, pour l'instant, on n'a pas l'impression qu'il veut arrêter la guerre.
David Rigolero, comment stopper cet engrenage guerrier de Benjamin Netanyahou? Parce que ça peut mettre du temps de parvenir à l'arrêt du nucléaire iranien, si c'est son, puisque c'est son ambition, changer le régime des Mollahs.
De toute façon, vous évoquez sept fronts.
Et puis la guerre à Gaza.
En réalité, Gaza était la première séquence en fait, d'une stratégie régionale. D'abord de dislocation de ce qu'on appelle l'axe de la Mukawama, c'est-à-dire de la dite résistance à Israël, qui regroupait la myriade de groupes pro-iraniens et qui était associé au Hamas, qui est une exception sunnite. Et donc c'était un préalable parce qu'il y avait effectivement une multiplicité de fronts. Mais le front central, en réalité, c'est celui d'aujourd'hui. Ça l'a toujours été.
Ben c'est la confrontation directe, c'est ce que je disais. C'est que jusque-là, c'était ce qu'on appelle les proxys, les alliés de l'Iran.
Oui, c'était des théâtres proxys. Ouais. Oui. Mais là, le vrai théâtre, c'est celui-là, parce que l'enjeu véritable, c'était le nucléaire iranien. Ouais. Et donc, on est dans l'épilogue de ce déroulé, de ce scénario, avec, encore une fois, beaucoup d'incertitudes sur la suite des événements. Hein, parce que il faut vraiment être extrêmement prudent. La maîtrise des événements échappe souvent aux acteurs qui les ont initiés.
Vous dites l'enjeu c'est le nucléaire iranien, mais si c'est la fin du nucléaire iranien, qu'est-ce que ça changera? Quand par exemple Benjamin Netanyahu dit Israël, alors c'est notre débat ce soir puisqu'on pose la question de est-ce que Israël redessine le Proche-Orient, et Benjamin Netanyahu a dit Israël est en train de changer la face du Moyen-Orient.
Mais il l'avait dit dès le 9 octobre. On n'a pas accepté.
Ça se traduit comment, ce changement de phase du Moyen-Orient?
Ce changement, c'est déjà de solder les comptes de 20 ans de projection iranienne, du régime iranien sur la région et de la menace qui était projetée justement autour d'Israël, avec justement, alors il y a une stratégie qui a été explicitée par l'ancien Premier ministre Naftali Bennett, qui s'appelle la stratégie Octopus. Il l'a explicité dans un article une interview, ou The Economist en l'occurrence, où il expliquait que désormais la stratégie n'était plus seulement d'attaquer les tentacules de la pieuvre, c'est-à-dire les mandataires, mais de toucher la tête. Bah, on y est, effectivement, parce que c'était l'idée que le vrai problème, c'était la tête et pas les tentacules, avec l'idée de... Bah oui, il y a quand même l'idée, à terme, de déconflictualiser la région, mais ça ne fera pas sans doute l'économie, effectivement, de la problématique palestinienne, comme il souhaiterait peut-être le faire.
Parce que, Rena Bassiste, dans le projet de Benjamin Netanyahou, il y a la fin de... tout État palestinien. En tout cas, il enterre ce projet-là. Ça fait partie aussi du projet. Donc, quand il veut changer la face du Moyen-Orient, c'est plus de nucléaire iranien, mais aussi plus d'enjeux palestiniens.
Disons, avec la coalition actuelle, bien sûr, on ne peut pas se projeter sur la question, la solution des deux États. Ça, voilà. C'est clair. Il y avait peut-être une étape, on se souvient très bien de son discours en 2009 où il a prononcé les mots solution des deux États, mais on est très loin de ça. Et là, on est avec un gouvernement qui inclut des ministres d'extrême droite. Pour eux, c'est hors jeu. Et ça, c'est clair.
Ce qui justifie d'ailleurs cette logique de Netanyahou. Il ne tient qu'à un fil politiquement. Et donc,
je ne sais pas
est-ce qu'il peut reculer.
S'il se tient sur un fil, pour l'instant, il a une majorité assez confortable, pas très large, mais assez confortable, parce qu'il a besoin dans la Knesset, dans le Parlement israélien, il a besoin d'une majorité de 61 membres du Parlement, et il a 64. Donc, au terme, quand on regarde la politique israélienne, c'est pas mal, 64. Mais je suis d'accord avec ce que David a dit tout à l'heure, parce que justement, après le 7 octobre, et depuis, il y a beaucoup de critiques vis-à-vis de M. Netanyahou, disant qu'il est responsable d'une certaine façon de ce qui s'est arrivé, parce que justement, il a alimenté le Hamas, qui était un de ses tentacules de l'octopus. Et donc là, en fait, il est en train de se rattraper vis-à-vis, en tout cas, la société israélienne.
Qui pense qu'il porte la responsabilité du 7
octobre. Voilà, il porte la responsabilité. Donc là, il faudra justement qu'il heurte la tête de l'octopus, qu'il cible les Iraniens directement, pas juste les Hamas, les Houthis, les Hezbollah. Et là, si ça marche, il pourra aussi dire aux Israéliens, regardez, on parle beaucoup en Israël du cercle de feu qui entoure Israël. C'était la doctrine iranienne d'entourer Israël, et d'abord par la menace nucléaire de loin, mais il y a aussi des cercles de feu plus proches et plus proches. Donc les Houthis, les Hezbollah plus proches, les Hamas. Et là, effectivement, il pourra dire si ça marche, si cette offensive contre le nucléaire iranienne, si ça arrive à son bout, il pourra dire, regardez, mes compatriotes, j'ai arrivé à casser tous les cercles de feu, y compris de loin et du proche. Et là, il se positionne dans une... Voilà, de façon très confortable, si on parle au niveau électoral.
Mais là, c'est un enjeu important qu'on va évoquer dans la deuxième partie du débat. C'est à quel point, finalement, la politique intérieure israélienne, elle dicte, d'une certaine manière, les ambitions aujourd'hui du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Israël redessine-t-il le Proche-Orient ? La question qu'on pose ce soir, c'est ce qu'a affirmé le Premier ministre Netanyahou. Israël est en train de changer la face du Moyen-Orient. On est au sixième jour de guerre entre Israël et l'Iran. Mes deux invités sont Rina Bassiste, correspondante de la radio israélienne à Paris, rédactrice au journal Al Monitor, et David Rigolet-Rose, rebonsoir, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique, spécialiste du Moyen-Orient, chercheur rattaché à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, et auteur de « L'Iran en crise systémique, quatre décennies de tourments ». Alors, David Rigolet-Rose, je ne vous ai pas entendu sur la politique intérieure israélienne, à quel point elle joue un rôle dans la situation actuelle, cette logique guerrière dans laquelle est effectivement, depuis le 7 octobre, le 8 octobre 2023, se trouve le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Et vous évoquiez la majorité dont il bénéficie. Il y a quand même eu, ces derniers jours, un projet de loi de dissolution de la Knesset qui a échoué de peu.
Qui a échoué.
Oui, mais de peu.
Oui, mais je crois qu'il faut dissocier la question du nucléaire iranien de la question palestinienne. Parce que sinon, il y a des problèmes de perception sur la question de la problématique nucléaire iranienne. Il n'y a pas débat en Israël. Il n'y a pas débat. Ce n'est pas un débat ni politicien, ni débat politique tout court.
Et d'ailleurs, il a une nouvelle popularité, là où il était de plus en plus critiqué, Benjamin Netanyahou, concernant sa guerre à Gaza. Il a un relan de popularité par rapport à l'offensive menée en Iran, parce que l'opinion publique israélienne perçoit ça comme une protection de son peuple face à la menace iranienne.
D'ailleurs, on peut même dire que certains de ses détracteurs les plus fermes, Yair Lapid et d'autres, trouvaient qu'il était un peu pusillanime, qu'il n'osait pas se lancer, qu'il fallait attaquer l'Iran. Donc c'est le paradoxe. Donc là-dessus, dans l'opinion publique israélienne, il y avait unanimité sur la nécessité de faire face à ce qui était perçu comme une menace existentielle. Pour la question palestinienne, c'est autre chose. Là, on retrouve effectivement les ajustements de politiciens avec les stratégies de coalition avec les milices d'extrême droite, etc., et les vraies scissions. Et on l'a vu à l'occasion de la guerre à Gaza, notamment sur la question des otages. Et le fait d'accuser le Premier ministre d'indexer son agenda personnel sur le déroulé des événements, effectivement. Donc, je pense qu'il faut bien dissocier les deux. Et là-dessus, les critiques étaient très, très, très fortes, évidemment, et elles le sont toujours, du reste.
Et est-ce qu'il peut chuter, Benjamin Netanyahou ? Je disais qu'il tenait à un fil, c'est peut-être excessif, mais encore une fois, le soutien de l'extrême droite est important, c'est ce qui maintient aussi sa majorité.
Il est un peu tenu par ses deux milices d'extrême droite.
Ouais. Est-ce que finalement son action, elle n'est pas dictée par cela ?
Pardon ?
Est-ce que son action politique, guerrière, géopolitique, militaire, elle n'est pas dictée justement par cet enjeu de politique intérieure.
Pas pour toutes les questions.
Ok, c'est ce que vous disiez.
Voilà.
Rina Bassiste.
Oui, c'est intéressant parce que, bien sûr, on imagine toujours que c'est le ministre d'extrême droite qui mène la balle. Ouais. Mais ce qu'on a vu dernièrement, c'est que finalement, sa survie politique dépend aussi des questions qui n'ont rien à voir ni à Gaza. Bon, d'une certaine part, partie ici à Gaza, mais pas comme on l'imagine. Mmh. Et je parle maintenant de partie ultra-orthodoxe, et qui ont justement, ils ont failli faire tomber Benjamin Netanyahu,
chasse,
mais, pas pour, voilà, mais pas pour des questions géopolitiques, pas pour l'Iran bien sûr, mais même pas pour Gaza d'une certaine façon. Ils sont contre en fait le recrutement des ultra-orthodoxes à l'armée. Mmh. Et là, comme ils ont, voilà, ils ont plus que quatre membres de Parlement, eux, ils peuvent faire tomber le gouvernement assez facilement. Ouais. Et c'est presque arrivé à ce point-là. Le problème de M. Netanyahu est que la majorité des Israéliens, à la fin, ils sont contre cette approche où il faut laisser les autres orthodoxes s'exclure du service militaire, notamment à cause de Gaza. Justement à cause de Gaza, parce que d'abord, on a encore 53 otages. Mm. Et Israël prennent, les soldats israéliens prennent beaucoup de risques pour essayer à les récupérer. Il y a beaucoup de soldats israéliens qui sont morts à Gaza. Il y a des dizaines de milliers d'Israéliens qui font leur service de réserve, qui vont pas, voilà, qui vont pas à l'université, qui vont pas à leur travail. Donc la charge est pas bien distribuée. Il y a des ultra-orthodoxes qui sont tranquilles dans leur école rabbinique, et il y a les autres qui prennent des risques, qui laissent leur travail à côté, qui laissent les études à côté. Donc finalement, on arrive à des questions israéliennes internes qui sont plus dangereuses politiquement pour M. Netanyahu que la question même de cesser le feu ou bien sûr la question iranienne.
Et qu'il faut que cette logique guerrière, elle ne peut qu'être temporaire. Mais en même temps, qu'y aura-t-il après la guerre? C'était une question que je posais. À quel point Benjamin Netanyahu peut continuer à être au pouvoir après la guerre? Vous disiez que les ministres d'extrême droite, ils dictent pas le jeu politique, mais est-ce que le Premier ministre peut rester en poste et avec une guerre qui s'arrête?
Des
guerres, d'ailleurs.
Oui, les sondages qu'on voit, les derniers sondages montrent quand même qu'il y a une majorité et des Israéliens qui souhaitent que la guerre se termine, qui attendent qu'il y aura un cessez-le-feu, d'abord pour la libération des otages à Gaza, oui, on parle de Gaza, d'abord pour la libération des otages, mais aussi parce qu'il faut que la guerre arrive à sa fin. Je crois qu'il y a une compréhension et qu'il faut arriver à ça rapidement dans la société israélienne. Mais de l'autre côté, on est un État démocratique et les élections sont prévues pour l'année prochaine. Il y a une grosse année encore avant que les élections auront lieu. Et là, bon, il y a des milliers d'Israéliens qui manifestent, mais ils ne peuvent pas faire beaucoup plus que ça.
On arrive à la conclusion de notre débat. Benjamin Netanyahu, Israël ne redessine pas le Moyen-Orient. David Rigoli-Rose.
Ah, en tout cas, les opérations en cours sont un bouleversement tectonique.
Oui. Mais est-ce que c'est l'augure à changer le visage?
De facto, ça le change. Mmh. Oui. Il a changé, c'est vrai.
Le rapport de force?
Non, pas seulement. Les contours aussi des États, leur positionnement les uns par rapport aux autres. Et on retrouve en creux, effectivement, la question est-ce qu'il y aura la prolongation de la logique de la dynamique d'Abraham ou pas?
Bien sûr.
Et là, il y a une hypothèque avec, effectivement, le Premier ministre actuel. Mmh. Parce qu'il la rend impossible.
Eh bien, merci beaucoup, il y a encore pas mal de choses. Effectivement, on pourrait continuer ce débat, c'est passionnant. Merci beaucoup à vous deux, David Rigoli-Rose et Rina Bassiste. Et merci à Florence Ponce qui était à la préparation de ce débat que vous pouvez réécouter évidemment sur Internet, sur RFI.fr, le podcasté.
RFI.
Allez, coup d'œil à la pendule. Dans une grosse minute, ce sera le grand journal du soir avec Christophe Paget. Puis 30 minutes plus tard, comme chaque soir, Afrique Soir, la première édition avec Zéphirin Quadio. Mais non, c'est Sylvie Berruet. J'ai vu Zéphirin ces derniers jours. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Romain.
Quel programme ce soir?
Eh bien, l'équipe féminine de basketball du Sénégal interdite d'entrer aux États-Unis, pas de visa pour les joueuses, alors qu'elles devaient s'entraîner en vue de l'afro-basket. Est-ce une sanction de l'administration Trump? Nous en parlerons dans notre journal. Il faut se battre, nous ne lâcherons rien, des propos musclés du capitaine Traoré, le chef de la junte du Burkina Faso. C'était devant son armée, premier discours officiel depuis les attaques djihadistes meurtrières du mois de mai. Et puis au Gabon, l'Assemblée transition vient d'adopter 10 textes de loi. Le plus discuté, vous l'entendrez, c'est le nouveau cadre légal des partis politiques. Certains jugent les conditions bien trop drastiques. Et puis, musique, nous découvrirons le groupe congolais Foulou Muziki, qui joue d'instruments recyclés.
Ah bah on sera à l'écoute. Merci beaucoup Sylvie, rendez-vous dans 30 minutes. D'ici là, le grand journal du soir, le dossier sera consacré ce soir à la position des néo-conservateurs américains dans le conflit actuel entre Israël et l'Iran. Ne bougez